This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 64. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons parler de Google Music, de Flash, de Kindle Fire et de plein d'autres choses. Et j'ai l'équipe historique, l'équipe, le canal historique du Rendez-vous Tech avec moi pour animer l'émission, à savoir Jeff Clavier depuis la Silicon Valley et Yann Allais depuis le Canada, depuis Montréal. Je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Comment allez-vous ?
Bah écoute, c'est un plaisir à partager. Ça va super bien. Comme tu le disais au début de l'émission, enfin au pré-enregistrement, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on s'est pas entendu et c'est peut-être pas complètement faux. Et bah écoute, je suis super content d'être là, de revoir la chatroom et de pouvoir vous contredire une nouvelle fois dans cet épisode.
On n'en attend pas moins de ta part.
Mais pourquoi tant de haine entre l'équipe historique? Franchement, on parle pas d'Apple aujourd'hui, donc pourquoi tu veux être... Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis la Silicon Valley, en fait je reviens de Londres, donc je regarde derrière moi, il fait pas super beau, donc on va pas dire où il fait beau et chaud, mais à part ça, tout va bien, merci de me demander.
Bah merci d'être là en tout cas. On salue aussi la chatroom qui comme toujours est sur le chat Ustream qui nous permet de faire le live en direct puisque c'est le principe du live, et la chatroom qui nous a en vidéo, ou du moins qui m'a en vidéo, et je dois donc expliquer un petit peu ce qui se passe parce que la chatroom peut admirer la magnifique moustache qui orne mes lèvres. En fait, c'est une moustache, comment dire, je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de...
J'irais pas jusqu'à dire magnifique, pour être honnête.
Bah en fait, la moustache, c'est, comme l'a bien compris Jean-Carole Fola dans la chatroom, c'est pour Movember. Movember, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement mondial... international mondial où les hommes du monde entier se laissent pousser la moustache pour amener l'attention sur des problèmes bien masculins que sont le cancer du côlon et le cancer testiculaire. Donc voilà, c'est l'idée que, surtout le cancer du côlon, l'idée qu'il faut se faire vérifier le côlon de temps en temps, c'est pas forcément agréable, mais surtout quand on approche, on va dire, la cinquantaine, il faut y penser, il faut le faire, et comme vous êtes certains à approcher cet âge dans... parmi les éditeurs du Rendez-vous Tech.
Ah, je voulais pas... mais oui, t'as fini, oui.
donc voilà. Et comme le dit avec beaucoup d'éloquence Randall Flagg dans la chatroom, Patrick ce soir met le doigt là où ça fait mal. Effectivement, c'est un sujet un petit peu tabou, mais il faut en parler. Non, mais c'est vrai, c'est très important et c'est très simple à dépister. Et tous les ans, depuis quelques années, je me fais une jolie moustache pour en parler. Donc voilà, c'est l'occasion. Et maintenant que cette petite note est passée, voilà, je voulais pas dire introduction, mais
je pense que l'on va parler, on va avoir un rating R aujourd'hui parce que entre les toilettes, l'attouchement rectal et la moustache, c'est mal parti.
Oui, tu trouves que ma moustache en fait est un peu le pornstache des années 70. Oui, pour ceux qui voient pas, je mettrai un truc sur Twitter, je la posterai sur Twitter comme je le fais à chaque fois. Mais c'est la moustache classique qui serait magnifique, je dirais, dans les années quoi, 50, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait
60,
tout à fait le style. Ouais, peut-être 50-60.
Il manque que la synchronisation labiale décalée et la musique pourrie derrière et on se croirait dans un Dorsal des années 80.
Voilà, tout le monde dit 70 dans la chatroom, donc ça doit être un peu ça. Chez Dallas, oui, effectivement. The Artist, c'est un petit peu avant quand même.
Ah, Freddie Mercury.
Freddie Mercury, Magnum, voilà, c'est la moustache Magnum, un peu moins fournie quand même.
Moins fournie.
Je suis moins viril que Magnum.
Que moins grand.
Bon. Eh ben écoutez, on va commencer donc avec des nouvelles assez intéressantes du monde de la tech, avec l'annonce enfin officielle et complète de Google Music. Je vais faire un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. En fait, Google Music a été lancé en bêta il y a quelques mois déjà, et en l'état, il était uniquement possible d'uploader ses morceaux sur le service Google Music et ensuite de les réécouter de n'importe où, ce qui était sympathique. Mais il n'y avait pas de Google Music Store. On ne pouvait pas acheter de morceaux de musique. Eh ben, la semaine dernière plutôt, Google a enfin fait l'annonce qu'ils lançaient leur magasin. Et le magasin est assez classique, je dirais. Avant tout, si vous êtes en France ou en dehors des États-Unis, à vrai dire, ne vous précipitez pas sur le Google Music Store parce que il n'est disponible que aux États-Unis. Mais donc pour résumer l'offre, ils ont Sony Music, Universal et EMI et il leur manque un studio Warner. Voilà, il leur manque la Warner. Donc c'est quand même pas mal parce que au moment où ils ont lancé le service, on se disait qu'ils avaient un petit peu mis du poil à gratter sur le siège des majors de la musique et qu'ils risquaient de ne pas pouvoir facilement faire affaire avec eux, justement parce que les modalités du service qu'ils avaient lancé d'upload de musique n'étaient pas tout à fait déterminées. Mais ils ont quand même réussi avec 3 des 4 gros studios et on se doute que le quatrième suivra très bientôt. Donc on peut acheter des morceaux, on peut faire tout ce qu'on fait avec les autres services de musique, de les magasins de musique, hein, c'est très différent des services comme Spotify ou Deezer ou ce genre de choses, mais c'est plus proche d'un Amazon Music Store ou d'un iTunes. Et la différence, qui est quand même sympathique, c'est que quand on achète un morceau ou un album, on peut le partager sur Google Plus et tous les gens qui nous suivent peuvent l'écouter une fois gratuitement. Donc c'est un outil de partage qui est sans doute une bonne chose pour les adeptes de Google en général et les gens qui ont des amis qui achètent sur le Google Music Store. Moi, mon impression sur ce Google Music Store, c'est qu'il est, il est très bien. C'est exactement ce qu'on attendait d'un Music Store, mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu grillé leurs cartouches en lançant la première partie du service il y a quelques mois et en annonçant la deuxième qu'aujourd'hui, parce que du coup, on le sentait venir et puis tout le monde a dit « Ah oui, ok, bon, c'est ça, d'accord, très bien. » Et l'affaire était classée en une demi-journée, là où ils auraient pu faire une grosse annonce s'ils avaient tout annoncé d'un coup. Donc je suis pas ultra séduit pour les fans de ce service spécifiquement, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais vos impressions, peut-être Yann, vas-y, je sens que tu veux prendre la parole, on entend le souffle derrière de quand tu démutes ton micro.
désolé pour les petits parasites. Écoute, globalement, je partage un petit peu ton point de vue. C'est assez étrange cette sensation.
Mais de partager mon point de vue, tu veux dire.
Ouais,
t'inquiète pas, tu vas t'habituer.
mais ouais, cette histoire de Google Music, ça me fait un peu penser à, je sais pas moi, un petit peu entre, c'est comme si on avait le choix entre Disneyland et les fêtes foraines, tu sais, les Disneyland où tu payes juste le parc d'entrée et après tu as accès à toutes tes attractions, ou une fête foraine où tu dois payer pour chacun des manèges que tu veux faire, quoi.
Alors, entre Google Music et Spotify, par exemple?
Oui, voilà, exactement. Moi, je suis un adepte de Spotify et c'est vrai que le fait de devoir payer pour chaque morceau que j'ai envie d'écouter ou même de découvrir, c'est un frein qui fait que voilà, que j'ai jamais fait le saut sur un Amazon Store ou un Google Music. Même si au final, quand j'y réfléchis, j'ai sûrement dépensé plus d'argent avec Spotify parce que au cours des derniers mois, alors que j'écoute toujours les mêmes morceaux, et ça m'aurait sûrement peut-être coûté moins cher de passer sur un truc à la demande. Mais voilà, l'illusion de me dire que à n'importe quel moment je peux écouter ce qui me plaît sans sortir la carte bleue, c'est un frein pour moi. Ouais. Et puis l'autre chose que j'ai pas réussi à savoir au niveau de Google Music, vous aurez peut-être la réponse, c'est comment ça se passe en famille. C'est-à-dire que je suppose que notre compte Google Music est attaché à notre compte Gmail, finalement, à cet identifiant unique de la plateforme Google. Et du coup, ben, je sais pas, si jamais ma femme veut écouter de la musique, Google Music, ou mes enfants ou autres, je suis obligé de partager mon compte Gmail avec eux. C'est un petit peu délicat, quoi. Donc, il y a ce petit côté qui me dérange.
Bah, tu peux télécharger ta musique sur ton PC, hein. Donc, après, tu peux en faire ce que tu veux. J'ai même pas posé la question, mais enfin j'ai même pas recherché la chose, mais tous les morceaux achetés sur ces magasins sont désormais sans DRM. Donc tu peux les copier, les donner à ta femme, ou mais par contre si elle aura besoin de les réuploader, elle n'aura pas accès à ta collection directement sans. D'ailleurs, ça c'est une question à laquelle j'ai même pas vraiment de réponse. Je suis même pas sûr que tu n'es pas besoin de réuploader le morceau que tu as acheté. Je peux pas. Enfin, j'imagine que ça serait pas le cas, mais bon, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse vu que le service n'est pas disponible ici.
Ouais, faut.
Mais bon, vu que les morceaux sont sans DRM. Bon.
Ouais, effectivement.
Et toi, Jeff, t'es plutôt service illimité, genre Spotify, ou plutôt iTunes où t'achètes chaque morceau?
Un mélange de tout. On a. La famille Clavier a dépensé beaucoup d'argent chez Apple au niveau iTunes, parce que les enfants, en fait, tirent là-dessus comme si c'était gratuit.
D'accord.
Autrement, j'utilise
pas mal.
Et vous
avez un compte partagé ou?
On avait un compte partagé, et maintenant on a chacun ouais, sien, et les gamins, faut, en fait, ouais. Ont un montant limité d'argent sur lequel ils peuvent tirer, parce que sinon c'était cataclysmique. On utilise aussi beaucoup Spotify, Pandora. Donc on a un Sonos à la maison et on utilise Pandora au travers du Sonos beaucoup. On est aussi utilisateur de 8-Tracks. Donc on fait beaucoup en fait de services de musique, mais j'ai pas eu le besoin ou j'ai pas ressenti le besoin de payer un abonnement. Donc tout est dans le format gratuit et on paye pour la musique que l'on achète au travers d'iTunes principalement.
Ouais, d'accord. Mais en fait, je crois qu'il y a un petit peu deux camps qui se battent pour, enfin, qui pensent avoir connaître le service de musique ultime. Certains disent, bah non, je préfère posséder ma musique. D'autres disent, oui, mais Spotify, t'as pas besoin de payer tout le temps. Enfin, bon, pardon. T'as pas besoin de savoir ce que tu veux écouter. Tu as accès à tout. Et je crois qu'il y a, à la limite, les deux sont vrais, évidemment, mais il y a surtout deux types d'audience qui se démarquent. Certains sont plutôt iTunes, certains sont plutôt Spotify, et certains utilisent un petit peu les deux. Moi, c'est un petit peu mon cas, je paye pour Spotify, j'achète des morceaux de temps en temps, mais vous me direz, c'est paradoxal de payer pour Spotify et d'acheter des morceaux, mais je sais pas, il y en a certains que j'aime bien acheter, avoir, et je sais qu'ils sont sur mon disque dur et je les ai sur mon iPhone ou iPod et je peux en faire ce que je veux, quoi. Donc je crois qu'il y a pas un service qui va envahir le monde et faire disparaître l'autre, en fait. C'est mon impression.
Il y a juste deux petites choses que j'aimerais rajouter. Dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google Music...
Tu peux parler un peu plus fort, Yann, s'il te plaît ?
Désolé. Dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google Music, on avait vraiment l'impression qu'on comparait finalement un concurrent à Spotify ou aux autres services de musique, mais je pense qu'il faut quand même rappeler que, quelque part, Google, ce qu'ils essaient de savoir, c'est ce qu'on fait sur Internet le plus souvent. Et pour ça, ils ont sorti leur plateforme Google+, où on a tendance à rester connecté, mais si jamais on n'a pas adhéré à Google+, ce Google Music, ça va être un nouvel élément qui va, quelque part, nous inciter à rester connecté pour pouvoir continuer à écouter notre musique sur cette plateforme, ce qu'on veut découvrir via nos amis, etc. Et finalement, même si c'est 5% supplémentaire qu'ils arrivent à choper chez Amazon ou chez iTunes d'utilisateurs, ces 5% d'utilisateurs qui vont pouvoir traquer davantage sur Internet et déterminer les goûts et vendre de la publicité adéquate. Donc voilà, je pense que c'est également un effort pour consolider leur plateforme Google+, et rajouter finalement des fonctionnalités qui vont vous inciter à rester le plus longtemps connecté sur leur service. Et la deuxième chose que j'aimerais également souligner, c'est que j'étais tombé sur cet article qui expliquait au niveau des artistes combien d'argent finalement ils récupéraient par rapport aux différentes plateformes de téléchargement de musique. Et c'était assez impressionnant de voir, alors je vais pas vous ressortir toutes les stats, mais globalement des services Spotify, à la Spotify en streaming limité où on paye juste un abonnement, c'est vraiment très défavorable pour un artiste. Un artiste qui qui décide d'enregistrer et d'imprimer lui-même ses CD, s'il voulait avoir le SMIC, l'équivalent du SMIC américain, il faudrait qu'il en vende à peu près 150 dans la rue. Pour qu'un artiste ait exactement le même SMIC américain, il faudrait qu'il soit écouté sur Spotify 4 millions de fois. Donc oui, ça montre un petit peu le décalage et cette approche qu'a Google de vous faire finalement payer à la demande, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus généreux pour l'artiste. Je sens que les artistes seront plus intéressés par ce type de plateforme parce que finalement ils retrouveront leur ils sortiront leur épingle du jeu plus facilement et c'est beaucoup plus simple pour eux.
Tu m'offres une transition intéressante, justement pour parler de Spotify. Il y a la semaine dernière 200 petits labels, principalement de techno, de dubstep, enfin des trucs assez peu importants, qui ont décidé de carrément quitter Spotify pour cette raison, parce qu'ils estiment que, alors l'étude évidemment, enfin les calculs sont vérifiables, donc on ne doute pas de leur véracité, mais c'est aussi très comment dire, évidemment que le morceau étant gratuit, les gens ne payant pas, si l'artiste a du succès, il va se faire écouter beaucoup plus facilement. Donc oui, entre les 14 000 morceaux qu'il doit vendre sur iTunes et les 4 millions qu'il doit streamer sur Spotify, la comparaison est un petit peu injuste parce que sur Spotify, les gens ne vont pas payer. Donc, sans doute, ils écouteront plus facilement. Mais effectivement, on comprend qu'il y a un problème avec Spotify et ces labels qui ont quitté carrément Spotify et les services du genre montrent bien que ces modèles ne sont peut-être pas tout à fait rodés encore. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment si ça a un rapport avec ça, mais Spotify a annoncé aujourd'hui, on enregistre le lundi, qu'ils allaient faire un événement et une annonce le 30, et ils mettent une sorte de teaser qui dit on va tout changer le 30 pour Spotify. Donc peut-être un changement de formule justement, peut-être des services un peu différents chez Spotify qui arriveront la semaine prochaine. Ça me surprendrait pas au regard de ces réalités dont sont bien obligés de constater les articles et que tu mentionnais, Yann. Les artistes, pardon, et que tu mentionnais.
Oui, mais d'un autre côté, je pense que tu as besoin d'avoir le côté découverte, donc discovery que Spotify te permet de faire, de manière à t'amener à acheter quelque chose sur iTunes. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un qui est impliqué dans l'autre. C'est-à-dire que si tu regardes juste un service de type iTunes, comment tu vas amener les gens à découvrir ta musique ? Et c'est au travers de services comme Pandora, comme Spotify, comme 8Tracks, comme Audio, comme Moog, que ça peut se faire.
Je crois qu'il y a quand même un outil pour découvrir les artistes. C'est plus YouTube à la limite, même que Spotify. Je sais quelle question tu allais poser, Yann. C'est si est-ce que tu écoutes des artistes différents sur Spotify, des nouveaux artistes.
Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je n'écoute jamais finalement les morceaux qui me sont suggérés par iTunes ou Spotify, parce que voilà, je fais beaucoup plus confiance finalement à mes amis et à ce qu'ils pourraient raconter sur Google+, encore on revient à cette plateforme, ou sur Facebook pour découvrir de nouveaux morceaux. Ma sœur me fait découvrir des morceaux des Antilles et je lui fais beaucoup plus confiance pour matcher mes goûts qu'un Spotify. Donc encore une fois, voilà, je pense que cette recommandation est un élément clé pour le succès d'une plateforme de musique.
Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, comme le disent les gens dans la chatroom. Évidemment, avec Google et YouTube, il y aurait une sorte d'alliance, enfin, une manière de lier ces deux services très intéressante. Et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, qui est très importante aussi sur Google Music, c'est la possibilité pour les artistes de mettre à disposition leurs morceaux sur le Music Store directement et de garder 70% des revenus. C'est-à-dire que, comme pour le modèle de l'App Store, enfin, ou de l'Android Market, ou ce genre de modèle. Et c'est un truc qui n'existe pas sur iTunes, étonnamment. Sur iTunes, il faut passer par un éditeur qui est spécialisé dans ce genre d'opération, donc c'est pas impossible, mais c'est pas aussi simple. Et ça, c'est sans doute une bonne chose pour les artistes indépendants, le fait de les mettre au plus proche des consommateurs d'une manière qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant.
À la MySpace un peu.
Ouais. Et peut-être que Spotify, ce qu'ils vont annoncer, c'est une composante web pour pouvoir justement partager simplement ses découvertes et partager sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, avec le logiciel spécialisé, le logiciel tiers de Spotify, qui est super bien fait et super intéressant, c'est quand même pas évident de partager les morceaux qu'on aime et qu'on veut partager à un moment précis. Donc, une composante web serait peut-être pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, moi, la manière dont je découvre des nouveaux artistes sur Spotify, c'est les sortes de radios, c'est-à-dire que tu choisis la période et le style, et il va te composer une radio avec les artistes correspondant à cette période et ce style ou ces styles.
Ah, je fais ça aussi.
Ouais. Ouais. Ben, tu vois, ça peut donner des trucs parfois. Mm. Bon. Passons à
sachant une chose, oui. Sachant une chose, que c'est que la découverte dont mentionnait Yann par le partage que font les gens sur Facebook lorsqu'ils ont lancé Spotify et l'intégration avec l'Open Graph, ça t'a donné un niveau de spamming dans ton newsfeed qui était absolument monstrueux, et Spotify a demandé à Facebook de réduire ça parce qu'en fait ils étaient haïs. Parce que t'avais 80% de ton stream qui était il y a un tel qui écoute ceci sur Spotify, etc. Et la première chose que j'en demandais, c'est comment j'enlève cette saloperie, parce que franchement c'est pire que du spamming, j'en ai rien à foutre.
Bah, c'est une question de d'ajuster la chose, quoi, parce qu'il y a quand même les morceaux qui viennent aujourd'hui, c'est juste qu'il y en a moins.
Ouais, ils ont baissé en fait la fréquence du broadcasting parce que c'était vraiment trop important, quoi.
C'est vrai. Bon, l'autre grosse nouvelle qui va, comment dire, animer les passions, je pense, dans l'univers du tech et parmi les auditeurs, c'est l'annonce de Adobe. Alors, un peu de contexte. Au moment de la sortie de l'iPhone, Apple a choisi, pourrait-on dire, de ne pas inclure le Flash sur son iPhone. Et ils étaient assez clair sur le fait qu'il ne voulait pas inclure Flash parce que la consommation de batterie était trop importante avec les modules Flash et les performances n'étaient pas au niveau. Au début, les gens étaient plus ou moins d'accord, mais au fur et à mesure que les smartphones ont monté en puissance, de plus en plus de personnes dans le public se disaient « Oui, mais maintenant, ça suffit cette histoire de ne pas avoir Flash. Le web, dans son intégralité, utilise beaucoup Flash. Donc, si on n'a pas Flash, on n'a pas le vrai, entre guillemets, le vrai web. Et à côté de ça, Adobe disait, on a déjà Flash Lite, qui fait certaines choses que fait Flash, et on va avoir Flash complet sur mobile très bientôt. Alors, ils l'ont dit en 2008, ils l'ont dit en 2009, ils l'ont dit en 2010, et constamment, il y avait une sorte de bataille entre, je schématise un peu, mais principalement, le camp d'Apple et de Steve Jobs, qui avait lui écrit une missive assez acerbe sur les raisons pour lesquelles il voulait pas intégrer Flash, en disant en substance que c'était une technologie qui était nécessaire avant mais qui aujourd'hui ne l'était plus et qui en plus était devenue trop lourde et trop encombrante, surtout pour les appareils mobiles, et que c'était en gros une technologie du passé et que HTML5 allait la remplacer. Et souvent, dans le camp des Android, une compatibilité Flash, qui était ce qu'elle était, au moment où Flash est enfin arrivé, elle était, disons, elle existait, mais elle n'a jamais été vraiment satisfaisante. Et Adobe qui disait, on va améliorer les fonctionnalités et ça finira par arriver. Et il se trouve que, je pense, à moins d'être véritablement, je vais dire, convaincu pour ne pas lancer les flammes de vers les trolls. Finalement, le camp Apple a plus ou moins eu raison cette semaine quand Adobe eux-mêmes ont annoncé qu'ils abandonnaient Flash sur les mobiles. Et cette annonce est extrêmement importante parce que non seulement ils avouent que leur technologie n'est pas vraiment possible à implémenter sur les mobiles avec les contraintes de batterie et de performance qui sont importantes. Mais en plus, c'est très préoccupant pour le camp Flash, ou en tout cas pour la technologie Flash, parce que ils ont annoncé aussi qu'ils allaient se concentrer sur leurs outils de développement pour créer des applications en HTML5. Donc, ça veut dire que leur technologie Flash est un petit peu effectivement en train de prendre du recul, enfin de reculer plutôt, non seulement sur les mobiles, mais aussi en tant que technologie web en général, parce que s'ils ne sont pas disponibles sur mobile et qu'un site veut être compatible avec toutes les plateformes, il ne faudra pas qu'il utilise cette technologie Flash. Donc, il y a fort à parier que sur les, allez, on va être généreux, sur les 2-3 prochaines années, Flash, ou plutôt Adobe, va se concentrer sur le développement de logiciels qui vont créer des applications HTML5 et Flash, mais de moins en moins, et les sites vont de plus en plus utiliser le HTML5, et peut-être on va, bon, alors peut-être qu'on va voir disparaître le Flash en général. Et alors quand c'est quand cette nouvelle est tombée, le monde a dit c'est Steve Jobs qui dame le pion à Adobe depuis le cercueil, voilà, je cherchais le mot. Je veux juste parler de ce que dit la chatroom avant de vous donner la parole. Jean-Carole Folla dit en réalité, ce choix de non-intégration de Flash a poussé les sites web à se lancer dans des versions mobiles en HTML5 et donc a poussé à l'essor du HTML5, ce qui est pas totalement faux. Mais là où on peut douter du fait que Flash aurait pris son essor sur mobile, c'est que même avec tous les efforts de Flash et des développeurs qui utilisaient Flash et des constructeurs qui utilisaient Flash sur mobile Android comme un argument de vente, même les plus grands partisans de Flash étaient bien obligés d'avouer que Flash sur mobile n'était jamais tout à fait satisfaisant. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je sais plus. Oui, si. Super Carotte disait Flash restera pour l'animation. Il est certain que Flash, en tout cas dans un avenir plus ou moins proche, restera pour des utilisations très spécifiques. Mais ça risque de. En gros, la leçon à retenir, c'est que sur mobile, Flash est mort. Il va arriver sur le nouveau Nexus, Galaxy Nexus de Google. Il n'y est même pas encore, mais il va arriver bientôt. Mais par contre, pour la prochaine version d'Android, la 5.0, Adobe a déjà annoncé qu'il ne développerait pas Flash mobile. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je vous donne la parole pour votre appréciation de la chose. Jeff a lancé une...
On a gagné. On a gagné. Non, le truc, c'est le fait que Steve Jobs ait décidé de sortir complètement Flash d'iOS, clairement, c'était un gros problème, étant la partie dominante, que ce soit sur les tablettes ou sur les téléphones, que joue la boîte. Comme tu l'as dit, Adobe, parce qu'on dit Adobe ici.
Oui, oui, tu as raison. Mais même en France, la prononciation officielle, c'est Adobe. Tu as raison.
D'accord. A essayé depuis des années de faire fonctionner Flash dans un footprint et avec un CPU et une utilisation de batterie qui était vraiment plus limitée que ce qu'elle était. Ils n'ont pas réussi parce que c'est une vieille infrastructure. Flash, ça fait quand même des années que ça existe et on a toujours connu les problèmes de Flash, sachant que on doit régler en parallèle de ça l'autre problème qui est la différence de plateforme entre les différents téléphones Android, iOS, les tablettes, et que HTML5 c'est vraiment la solution. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui forcent le passage à HTML5 et le fait qu'ils aient pas réussi à faire fonctionner Flash dans ce footprint plus réduit. Ça veut dire que et ils essaient depuis des années, ils ont des ouais. centaines de personnes là-dessus, quoi. Donc ça veut dire qu'ils avaient pas le choix, ils ont dû abandonner le truc. C'est une bonne nouvelle.
Ouais. Yann.
Aïe. J'ai dû me mordre les lèvres pendant toutes ces explications pour ne pas exploser. comment dire? Alors, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais préciser. Déjà, Adobe n'abandonne pas Flash.
Sur mobile.
Mais ils n'abandonnent pas Flash sur mobile, c'est faux de le dire. Ce qu'ils ont dit, c'est que ils n'allaient pas continuer le développement de Flash sur mobile, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas rajouter de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Flash mobile.
Non, attends.
Voilà. Donc, ça signifie que Flash continuera d'exister sur mobile. Le Flash qui est à l'intérieur des navigateurs sera dans les prochaines versions d'Android. C'est juste qu'il ne fera pas plus que ce qu'il fait actuellement. Ils vont continuer de lancer des services PAC pour pouvoir rectifier les bugs, mais ils ne vont pas implémenter de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur du navigateur. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est que ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur chez Adobe, c'est passer lentement mais sûrement vers leur plateforme R qui continuera d'utiliser Flash à l'intérieur. Donc Flash existera dans une forme différente et continuera à être amélioré sur les plateformes Android. Dans les années à venir, c'est juste la version à l'intérieur du navigateur qui, elle, cessera d'évoluer. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc pour tous les développeurs web qui avaient l'habitude de faire du Flash, ils peuvent continuer à faire des applications Flash pour Android et cette plateforme R va continuer d'évoluer. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est important de le préciser parce que on a l'impression que finalement Adobe est complètement passé sur l'HTML5. C'est faux. Ils se concentrent sur leur plateforme R qui, entre autres, utilise à l'intérieur la technologie Flash. Et juste pour prendre la voix des trolls qui ont toujours voulu avoir Flash sur leur périphérique, in fine, on s'en fout finalement de la technologie. Ce que je veux, moi, c'est du contenu. Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Je suis un très fervent lecteur du site Engadget, que vous connaissez peut-être. Et toutes les vidéos qu'il y a sur ce site technologique sont disponibles uniquement en Flash. Ce qui fait que quand je suis avec mon iPhone, mon iPad ou mon Windows Phone 7, je vois un titre de news intéressante, mais je suis absolument incapable de pouvoir lire la vidéo qui est associée. Il faut que je repasse sur mon ordinateur. Et c'est contre ça que je pèse. C'est contre ça que tous ces internautes étaient frustrés de ne pas avoir le support de Flash. Pas parce que c'est pas normal que le Flash soit pas supporté, mais parce que un certain nombre de vidéos, de sites qu'ils aiment, ben, ont décidé de rester sur du Flash. Et du coup, ils ne pouvaient pas consommer le contenu qu'ils aiment. Et aujourd'hui, c'est encore une restriction. Engadget a décidé de ne pas passer sur l'HTML5. Du coup, ben, je ne peux pas consulter mon site favori parce qu'un constructeur a décidé de ne pas supporter le Flash sur sa plateforme.
Ouais, Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'une part, le fait qu'Engadget ait choisi d'utiliser Flash, il y a des raisons pour ça. Hein. HTML5 n'est pas encore complètement prêt pour remplacer totalement Flash et ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des choses comme le pre-roll de publicité qui est très important pour certains sites, qui est pas vraiment facile à faire avec HTML5. Mais à la limite, je pense que tout le monde est d'accord. Le fait que Flash ne fonctionne pas sur les appareils mobiles, c'est plus gênant qu'autre chose. Ne serait-ce que pour les vidéos, ça serait beaucoup plus simple si ça fonctionnait. Mais étant donné que Adobe eux-mêmes n'ont pas réussi à l'adapter, il est légitime de penser que
n'ont pas réussi à l'adapter, c'est qu'ils ont décidé que sur le
tu penses bien que s'ils avaient pu développer un Flash mobile potable, ils l'auraient fait.
Mais ça ne sert à rien puisque Apple qui contient une part de marché non négligeable a dit haut et fort que quoi qu'il arrive, il ne mettrait pas Flash. Donc à quoi ça sert de développer une plateforme
pour Android,
si tu sais que iOS est toujours là. Point de vue business, ça n'a absolument aucun sens de développer une plateforme si tu sais que de toutes les façons, cette plateforme qui contient une large partie du marché ne supportera pas ta technologie. Donc force est de constater que voilà, il faut s'adapter et passer sur quelque chose qui passe sur cette plateforme pour toucher un maximum d'utilisateurs. Mais si je suis convaincu que si Apple, dès le premier jour, avait accepté de faire du Flash, Adobe aurait continué à investir dans l'amélioration de sa plateforme. Et peut-être, je ne dis pas qu'ils auraient réussi, mais en tout cas, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui.
Je crois que ça...
Ouais, là, tu es en train de réécrire l'histoire sous un angle Adobe qui est vraiment... C'est du réformisme. Hein, parce que, en gros, c'est... Ils ont pas réussi à faire marcher leur saloperie sur les plateformes mobiles, donc ils ont dit bon ok à cause d'Apple on le fait pas, mais c'est pas vrai. Attends, Android de toute façon il y a un footprint largement supérieur à iOS aujourd'hui et ça va continuer à se développer. Donc même si ils ne faisaient que de supporter Android, ce serait déjà une part de marché énorme. Le fait que tu dis ils vont passer ça sur donc le développement va se faire sur R. R c'est encore, c'est une grosse daube aussi, donc c'est super lourd, ça marche pas, machin, etc. Donc ils ont besoin en fait de sortir une plateforme cross device, cross OS qui leur permettent de conserver leur footprint actuel. Et je sais pas où est-ce que ça va être, mais en tout cas c'est que des gros bousins super lourds qui ont du mal à fonctionner pour les développeurs. Et je pense que essayer de trouver une solution qui soit beaucoup plus légère, qui aille beaucoup plus vite, qui ne soit pas aussi contraignante que Flash, c'était vraiment ce dont le marché du mobile a besoin.
Pour ce qui est de R, je crois que le débat est un petit peu différent. Et Yann, t'as raison, ils vont continuer à développer la technologie Flash, entre guillemets, dans R, qui est, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, on va pas se lancer là-dedans, mais cette discussion ne s'applique pas vraiment pour la question de Flash sur le web, ce qui est le point essentiel. Et Grandiosa69 sur la chatroom dit « Oh le vilain fanboy Apple, Flash n'est pas une saloperie ». Sincèrement, bon, le fait que Jeff soit un petit peu fanboy, ou moi-même, bon, on peut le arguer de ce fait, je dirais, mais le fait que Flash ne soit pas une saloperie, franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui estime que Flash est une solution élégante au problème qu'il essaye de résoudre. C'est un héritage d'un moment où le web n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est une solution extrêmement lourde et qui provoque la majorité des bugs et des plantages de navigateurs dans le monde entier. Je veux dire, que ce soit Google avec Chrome, Apple avec Safari, ou enfin tous les autres, ou Firefox, tous sont d'accord pour dire que Flash est un énorme machin super lourd qui pose énormément de problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons et des utilisations cohérentes de Flash. On le disait pour des questions d'animation, pour certaines utilisations spécifiques, Flash reste utile. Mais je pense qu'il est Enfin, c'est en tout cas un signe là qu'il est clairement sur le chemin de la sortie. Mais bon, ça va prendre des années encore. Bon,
Tout à fait.
Mais bon, l'opinion de Yann restera pour les annales. On pourra y revenir dans 2-3 ans et on verra si en fait Adobe adore Flash et va rester. Ouais. Entre parenthèses, ils ont annoncé qu'il serait pas compatible avec Android version 5.0. Donc oui, il est encore là, il existe encore, mais quand quelqu'un dit on arrête le développement de ce truc, c'est pas super bon signe non plus. Hein.
Bon. Bah écoute, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas que chez Adobe qu'on jette l'éponge en ce moment. Je crois que chez Google aussi, avec la Google TV, avec leur Logitech Review. Donc ça me fait un petit peu rigoler puisque c'est un petit peu dommage, mais je me souviens que Cédric Ingrand, qui était venu sur Rendez-vous Tech il y a quelques mois, ne tarissait pas d'éloges envers cette box Google TV, ouais, qui avait été lancée l'an dernier, qui disait qu'il en achèterait deux, etc. Écoutez, Logitech, qui avait donc été un des premiers constructeurs à sortir sa box Google TV, vient d'annoncer également que eux, ils arrêtaient les frais, qu'ils arrêtaient la production de leur box, tout simplement parce que c'est un flop monstrueux. Ouais. Et en fait, ils l'avaient lancé il y a un an à $300, juste en décembre, je crois, et ils pensaient que ça allait se vendre comme des petits pains, mais en fait, les gens ont préféré s'équiper avec des box un petit peu plus abordables, en l'occurrence la Roku box à $59 et l'Apple TV à $99, en plus capter l'attention des gens et surtout leur portefeuille, je pense. Ouais. Et donc voilà quoi. Donc c'est un petit peu une douche froide pour Google qui avait quand même bien poussé la plateforme. Mais encore une fois, on tombe toujours sur cette histoire de contenu. Puisque une des grosses composantes qui explique finalement cette défaite et ce succès que Google n'a jamais eu avec sa box, c'est le fait que tous les fournisseurs de contenu ont très rapidement bloqué l'accès à leurs séries télévisées, à leurs films pour ces box. Donc du coup, on avait une super box qui était capable de faire potentiellement beaucoup de choses, mais comme il n'y avait pas de contenu, ben finalement ça n'a pas vraiment marché. Je sais pas si Jeff tu as cédé à la tentation et que tu t'en es acheté une et du coup tu te retrouves un peu le bec dans l'eau.
Google m'en avait donné une et je sais pas où je l'ai foutue et donc je l'ai utilisée quand ils l'ont sorti et à ce moment-là comme tu le dis Yann, il n'y avait pas de contenu donc ça servait pas à grand chose. Et ça a pas fonctionné. Je pense que le problème qu'a Logitech, c'est que il semblerait qu'effectivement ils aient surinvesti sur un produit qui n'était pas encore prouvé. Et en plus, il semblerait qu'ils ont eu des soucis de design, de production, etc. Ce qui fait que c'est devenu un gros cauchemar pour eux. C'est le problème de ces technologies qui ont besoin en fait d'avoir des accords avec les fournisseurs de contenu et le contenu est toujours un train de retard hein. On le voit avec la musique, j'ai quelques boîtes qui sont des services dans le monde de la musique et à chaque fois qu'on doit parler aux majors que ce soit EMI, que ce soit les autres, c'est un cauchemar. Et effectivement c'est la même chose avec les grands fournisseurs de contenu au niveau télévisuel. Bon, ce sont des choses qui vont évoluer. Je suis pas sûr que c'était un produit qui était super bien foutu. Et comme toutes les choses que fait Google à côté de son produit phare, ils ont pas forcément tous les moyens jusqu'au moment où ça devient plus stratégique, comme c'est le cas aujourd'hui d'Android. Donc ouais. Bon, c'était un peu un pétard mouillé, quoi.
Là, en l'occurrence, c'est d'autant plus. Enfin, il y a plusieurs éléments à indiquer quand même dans cette annonce. D'une part, c'est pile le mauvais moment parce que Google a annoncé qu'il y avait la deuxième version de Google TV qui arrivait et cette nouvelle version devrait être plus intéressante avec les histoires d'app et tout ça dont on avait parlé, je crois, la dernière fois. Mais donc la nouvelle version devrait être un petit peu meilleure, mais cette première version qui avait poussé à fond Logitech était presque une version bêta, quoi. Et Logitech, qui a investi énormément c'était un petit peu l'incrédulité quand même, devant cette énorme push marketing.
100 millions de dollars, ils ont investi 100 millions de dollars.
C'est ça, ça leur a coûté plus de 100 millions de dollars au final, cette histoire. Bon. Ce qui est marrant, c'est que c'était au moment de la conférence pour les investisseurs que le nouveau CEO, Guireno De Luca, qui a dit que c'était une énorme erreur et que ça leur avait coûté énormément et qu'ils arrêtaient les frais. Évidemment, c'est l'ancien CEO qui avait fait l'erreur. Donc, c'est un petit peu facile pour lui de dire les choses comme ça. Mais clairement, c'était pas du tout une réussite. Ça s'est pas vendu. Et on sentait presque une sorte d'aigreur de la part de Logitech qui a cru aux sirènes de Google. Google disait « notre truc est fantastique et merveilleux, ça va révolutionner la télé ». Et quand ça n'a pas été le cas, et plus que ça, quand le système a montré qu'il était vraiment une version bêta, Logitech s'en est évidemment mordu les doigts. Donc, ce qui est ironique vraiment dans l'histoire, c'est que comme je le disais, la nouvelle version de Google TV risque d'être beaucoup plus performante que celle qu'ils ont eue et ils s'arrêtent au moment où ça pourrait devenir intéressant. Mais bon, on n'a pas encore la preuve que ça soit intéressant, donc c'est peut-être le moment d'arrêter les frais aussi, c'est certain. Mais bon, clairement, la Google TV, c'était pas non plus la merveille attendue et moi, ça me rend d'autant plus triste que ça permettrait diffuser plus largement le contenu internet sur les télévisions, mais peut-être que la prochaine version sera plus efficace.
Ouais, mais l'Apple TV fera ça.
Peut-être, oui, c'est possible. Yann, t'as pas enlevé ton
mute. Ah, je suis désolé. Jeff disait que le contenu finira peut-être par arriver. J'en suis pas si convaincu en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une chasse gardée et que ces gens s'attachent de toute leur force à leur Desperate Housewives House et les Feux de l'amour et ils n'ont pas l'intention de le lâcher sur un réseau ou sur une plateforme qu'ils ne contrôlent pas. Intégralement et même si on parle de contenu alternatif, on parle des podcasts, les podcasts de No Watch qui sont d'une qualité incroyable.
Extraordinaire.
Mais non, mais je le dis très très sérieusement. Enfin, aujourd'hui, on a quand même sur Internet des contenus qui sont réalisés de très très bonne facture, qui sont tout indiqués pour ce type de plateforme. Mais l'impression que j'ai, c'est que à partir du moment où un contenu de ce type commence à atteindre un certain niveau de qualité et de maturité, ils sont tout simplement rachetés par ces ténors qui contiennent déjà, enfin, qui possèdent déjà pléthore de contenus. Et qui vont tout simplement injecter ces contenus sur les plateformes existantes. Donc finalement, j'ai pas l'impression que Warner et EMI et Universal vont finalement perdre ce marché sur lequel ils ont la même mise.
Non,
et au fur et à mesure de nouveaux contenus qui vont arriver, ils vont se contenter de le racheter.
Je pense un truc, c'est que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé au niveau d'iTunes et le fait que tu puisses maintenant acheter les épisodes individuellement de tes séries favorites, y compris les Feux de l'amour, et que c'est en gros.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Gros Jobs qui les a forcés à rentrer dans ces négociations, ces discussions, etc. Et donc, quand tu regardes ce qui s'est passé avec Hulu, où maintenant tu peux regarder la plupart des séries américaines sur Internet avec quelques coupures. Alors, soit tu te tapes, je sais plus, genre deux pubs, une minute, et puis après t'es tranquille pour une heure. Soit tu as eu un des interstices trois fois, je crois, sur une série d'une heure. Globalement, ça se passe bien. Et donc, le fait que tu puisses maintenant avoir du streaming aux US de tes séries favorites, c'est déjà un progrès énorme. Et pour moi, le fait que ce soit ensuite disponible sur des devices de type Google TV, c'est juste la prochaine étape assez logique, tu vois.
J'irais même plus loin. Vas-y, Yann, pardon.
Non, je t'en prie, vas-y.
Il y a clairement un moment, on est dans une période un petit peu trouble où les choses sont en train de s'ajuster, mais il y a plusieurs choses intéressantes qui sont en train de se passer. Je voulais parler un tout petit peu de Sony qui eux aussi veulent développer des télés entre guillemets différentes, qui font des choses que veulent faire ce type de box sans doute, et qu'ils développent ils mettent énormément de ressources dans le développement d'un nouveau type de télé. Donc ça, on verra ce que ça donne sans doute dans quelques années, mais donc les gens s'y mettent. Et il faut se souvenir que le développement de la digitalisation de la musique a été poussé par les fabricants de matériel qui faisaient énormément d'argent en vendant le matériel, même si les majors de la musique étaient contre. La somme, en fait, pour Sony, par exemple, qui a une division musique et une division de matériel, ils font beaucoup plus d'argent en vendant du matériel qu'en vendant de la musique. Donc, ils développent ce type d'outils. Et peut-être que ça sera la même chose pour la télé. Mais la chose dont je voulais parler, c'est le deal de Netflix qu'ils ont fait, je ne sais plus avec quelle société qui produisait Arrested Development, une série de comédies américaines qui est hilarante. Cette série s'est arrêtée après 3 ou 4 saisons. Et Netflix a signé avec la boîte de prod pour ressusciter la série, et ils vont donc la développer pour Netflix. Et là, on arrive à une chose dont on parlait tout à l'heure avec la question du rapprochement entre les producteurs et les consommateurs, c'est-à-dire que on enlève les intermédiaires et on rapproche les producteurs de contenu des consommateurs. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette histoire de Netflix. Et c'est forcément quelque chose qui va devenir intéressant à terme pour un autre type de série. Alors peut-être que les séries qui sont nées sur ces chaînes, sur ces grandes chaînes, vont a priori y rester, mais peut-être que à terme, Netflix va se mettre à produire des séries de qualité, YouTube va se mettre à produire des séries de qualité. Il y a un grand principe sur Internet, c'est que c'est, en anglais, on dit disintermediation. Ça veut dire la désintermédiation. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire.
Voilà, désintermédiation.
Désintermédiation, c'est-à-dire qu'on fait disparaître ces intermédiaires qui ne servent à rien d'autre que prendre une partie de votre revenu. Alors, bien sûr, il y a toute une histoire de marketing qui est toujours nécessaire, mais petit à petit, il n'est pas impossible qu'on voit les choses évoluer dans ce sens-là. Donc, qu'il n'arrive jamais sur des box de ce type, moi, je ne suis pas certain qu'on puisse être aussi catégorique, quoi.
Eh bien, écoute, l'histoire nous le dira.
Voilà. En même temps, l'industrie de la musique me fait un petit peu mentir parce que mine de rien, même si on a une grande facilité pour passer directement de la production de la musique au consommateur, on n'a pas encore vraiment vu énormément de groupes qui sont sortis de nulle part sans l'aide de la puissance marketing des majors. Bon, il y a OK Go ou des groupes plus petits comme Pamplemousse. Pardon?
Des solutions comme My Major Company ou des trucs comme ça.
Oui, mais tu vois, même ce genre de choses, au final, ça c'est presque le principe d'une major, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Ouais. Bon, effectivement, l'avenir nous le dira. Info suivante, le Kindle Fire est enfin sorti. Le Kindle Fire est donc sorti et, enfin, il a été annoncé il y a 2 mois, c'était pas non plus une attente interminable. Il est extrêmement demandé, certains disent sans doute plus que l'iPad, ce qui est pas étonnant puisqu'il coûte 2 à 3 fois moins cher. Les reviews sont relativement moyennes, ce qui, là encore, n'est pas super étonnant. Certains le trouvent un petit peu lent, un petit peu, on dit sluggish, donc oui, bah un petit peu lent, un petit peu il faut le pousser pour qu'il avance. Mais encore une fois, c'est pas surprenant vu qu'il est très bon marché. Mais il fait ce qu'on lui demande pour le prix qu'on paye. Donc évidemment, c'est pas un iPad, c'est pas une Galaxy Tab ou un truc vraiment performant. Mais il permet de lire les livres, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique et de faire ce qu'il est censé faire. Il y a aussi des rumeurs qui sont sorties sur la possibilité d'avoir un Amazon Phone. Ça, j'y crois. Moyen, je vous avoue, mais bon, peut-être. Donc voilà, le Kindle Fire. J'imagine que vous n'avez pas touché à un Kindle Fire, donc on va s'en tenir aux reviews officielles qui disent c'est moyen au niveau performance.
Il n'est pas disponible au Canada, donc j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là.
D'accord.
Puis non, j'en ai pas, en fait. Moi, j'ai un iPad 2, donc l'application Kindle sur l'iPad 2 marche très bien. Et je sais que j'ai des copains, en fait, qui sont très contents de leur Kindle et je pense qu'ils ont commandé un Fire. J'ai vu des gens qui disaient sur leur Twitter « Eh super, je l'ai reçu », mais j'ai pas vu un seul des gens qui ait dit « Super, je l'ai reçu » qui se s'épamait sur les performances ou sur l'expérience. Ce qui veut dire que bon, c'est ok, mais... Donc j'ai pas vu de gens qui se plaignaient, donc ça veut dire que c'est pas trop naze, mais j'ai pas vu de gens qui disaient « Oh, c'est super ».
Ouais. Oui, ben je crois qu'effectivement une tablette à ce prix-là, elle est à quoi, $200. Il faut pas s'attendre à une bête de course ou un truc totalement merveilleux. Certains disaient notamment que le navigateur Silk dont Amazon a fait tout un plat et qui pourrait a priori être intéressant était pas tellement plus rapide avec l'infrastructure Silk que sans l'infrastructure Silk. Mais bon, pour $200, forcément, on n'a pas la merveille des merveilles, mais je suis sûr que mamie et papy pourraient être très heureux de l'avoir s'il y a le contenu vidéo et livres et magazines et journaux qui va avec, et c'est le cas avec l'infrastructure Amazon. Donc,
mais c'est vraiment ça le problème finalement, puisque aussi incroyable puisse être cette tablette, le fait qu'elle soit aussi lié à l'Amazon Store fait que bah, y a que les Américains qui peuvent en profiter, ni en France, ni au Canada, ni nulle part. On peut vraiment en tirer vraiment profit puisque voilà, c'est vraiment lié à ce store.
Oui. Qui pour est, la vidéo, c'est vrai que.
Ouais, mais c'est surtout parce que l'aspect livre, c'est pas aussi agréable. Enfin, je préfère encore prendre un Kindle monochrome pour faire la lecture. Donc, du coup, c'est surtout l'aspect vidéo qui m'intéresse. Mais voilà, je vais à Paris, je peux pas télécharger le dernier épisode de House sur mon Kindle Fire. Ouais. Donc, voilà, c'est C'est pour ça que je suis vraiment en retrait par rapport à ça.
C'est vrai.
Enfin, tu sais, objectivement, c'est la même chose avec iTunes ou la même chose avec Hulu, où tu vas avoir tout un tas de limitations qui ne sont pas causées par la plateforme, mais causées par les rights owners, donc les gens
encore
qui ont
fois.
Les droits oui. sur le. Donc, c'est pas de leur faute, tu vois.
Ah non, c'est sûr.
Ah, mais... bien sûr, mais ouais. c'est la situation dans laquelle on est.
Ouais. Ouais. Et pour ceux qui savent pas, le Kindle Fire, c'est le Kindle en version tablette couleur écran LCD, contrairement au Kindle monochrome, le e-book reader plutôt, le Kindle monochrome qu'on connaît habituellement et qui est désormais en vente en France aussi.
D'ailleurs, donc une tablette sous Android.
Voilà. Non, une tablette sous Android très customisée, qui d'ailleurs pose un gros problème à Google parce que c'est une sorte de branchement d'Android qui n'est pas vraiment Android, donc du coup ça risque de faire un marché parallèle parce qu'il fait aussi tourner les applications Android, mais certaines, enfin c'est pas forcément idéal pour Google. Bref, donc le Kindle Fire, on a fait le tour et on va conclure avec une sorte d'énorme exploit sur Facebook. Je me souviens plus des détails, à vrai dire c'est pas vraiment super intéressant, mais il y a eu une sorte de pluie et de raz-de-marée de spam assez violent. Quand je dis violent, c'est-à-dire des images très explicites, non seulement pornographiques, mais aussi comment dire, gore et hyper enfin vraiment gore choquante quoi, des trucs du genre des vidéos de gens qui écrasaient les crânes de personnes mortes sur des murs, enfin des trucs hyper violents et de très mauvais goût. C'est pas juste genre marrant, haha, on voit quelqu'un tu vois, qui fait une vidéo bizarre avec du sang de cheval ou Dieu sait quoi. C'est des trucs vraiment gore. Et c'était dû à un problème sous Facebook, un exploit qui était provoqué par une mauvaise utilisation d'un lien copié par quelqu'un lui-même. Bref, c'était le problème que ça posait, en fait, c'est que si, même si vous n'aviez rien fait de mal, si un de vos amis avait été victime de cet exploit, eh ben, il allait se mettre à poster ce type d'image et vous alliez les voir parce qu'il est ces images allaient apparaître dans vos flux. Donc, comme le problème a été extrêmement répandu, je ne sais pas comment il s'est diffusé exactement, mais il a été extrêmement répandu. Ça a posé un gros problème d'image de marque à Facebook parce que les personnes qui voient ce genre de choses, à la limite, ils se posent pas forcément la question de savoir lequel de leurs amis a eu le problème ou qui est responsable. Ils voient juste que sur Facebook, ils ont des images insupportables et donc ils arrêtent d'utiliser Facebook. Alors, évidemment, personne n'a arrêté d'utiliser Facebook très longtemps. Facebook a trouvé la cause du problème et visiblement c'était un problème, une attaque coordonnée et limite criminelle qu'ils ont réussi à endiguer. Ça leur a pris quelques jours, mais ils ont réussi heureusement. Mais ça a vraiment mis le web dans tous ses états pendant quelques jours. Moi personnellement, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'amis qui étaient victimes de cette attaque. Donc je sais pas si vous avez eu des amis.
Non, moi je suis pas sur Facebook plus. Donc
D'accord, ça règle la question.
Voilà.
Jeff non plus, je sais que tu étais en voyage.
Ouais, non, j'étais en voyage, donc j'ai pas passé énormément de temps sur l'ordinateur, mais j'ai pas vu en fait quoi que ce soit arriver dans mon feed. J'ai en fait cherché après avoir entendu parler de ce problème, si je voyais quelque chose, mais non.
D'accord. Bon, bah visiblement, sans doute a-t-on des amis un petit peu plus tech savvy, habitués au tech. Encore que sur Facebook, généralement, on a tous ses amis et sa famille et tout ça, donc personne n'est vraiment vraiment à l'abri, quoi. Nos contacts Facebook ne sont pas forcément tous technophiles, même si on l'est nous-mêmes. Une autre nouvelle pour Facebook, c'est que ils vont désormais trouvé un accord avec la FTC, la Federal Trade Commission, qui a exigé, en fait, selon l'accord, ils vont devoir, à partir de maintenant, rendre tous leurs changements sur les questions de vie privée de opt-out à opt-in, c'est ça. C'est-à-dire que vous devrez accepter le changement plutôt que de devoir vous-même aller dans les settings et l'annuler quand il aura été accepté par défaut pour vous. C'est un changement assez important dans le mode d'opération de Facebook, parce que jusqu'à maintenant, quand il voulait faire un changement sur votre vie privée, il l'activait simplement pour tout le monde, et il partait du principe que ceux qui n'en voulaient pas pouvaient aller fouiller dans les paramètres pour le désactiver. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable dans cette histoire, parce que le problème, c'est que les plateformes n'évoluent, généralement, les plateformes de ce type n'évoluent pas facilement. Et si on demande aux gens d'aller activer quelque chose, généralement, ils vont pas le faire. Et donc, comme il y a, comme on le disait à l'instant, finalement, une énorme partie du public de Facebook qui n'est pas du tout technophile, si on l'active pas pour eux, eh ben, ils ne l'auront jamais et la plateforme ne va jamais évoluer. Donc, oui, il y a des préoccupations par rapport à la vie privée, c'est certain, mais en même temps, je me dis que si on veut que les plateformes évoluent et la modernité des réseaux sociaux, finalement, parce que regardez Facebook qui a énormément évolué depuis 5 ans, à chaque fois, les gens disaient non, c'est pas bien, et finalement, ils aimaient bien les changements. Et ils en étaient satisfaits. Donc, si à chaque fois on avait dû dire aux gens vous devez l'accepter, il y aurait eu énormément de difficultés à faire évoluer la plateforme. Je suis complètement à côté de la plaque ou
je veux dire que je suis pas complètement convaincu par ce que tu viens de dire. Enfin, non, mais c'est vrai. J'accepte cette modification avec même si je suis pas sur Facebook. C'est quelque chose que j'accueillerais avec beaucoup d'enthousiasme parce que voilà, je suis vraiment très frustré à chaque fois qu'on m'active un truc automatiquement, le fait de pouvoir me taguer sur une photo alors que j'ai pas donné l'autorisation, bon ben voilà, c'est quelque chose qui me dérange. Mmh. Et à chaque fois passer dans les paramètres pour vérifier qu'ils ont pas rajouté un petit truc sur lequel je dois désactiver à chaque fois, c'est quelque chose qui me dérange. Alors
mais je comprends, je suis d'accord, hein, mais
donc voilà. Et puis surtout quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose que toi tu t'arrives pas à faire avec ton Facebook, forcément, tu te demandes, mais comment t'arrives à faire ça? Ah, mais c'est parce que j'ai activé tel truc. Ah, bah, ok, je vais le faire aussi. Parce que c'est communautaire. Donc, forcément, tu vas voir des gens faire ou communiquer d'une certaine façon que t'arrives pas à faire. Tu leur poseras la question. Et si ça t'intéresse, tu l'activeras à ce moment-là. Donc, ouais, je crois que ça viendra naturellement.
D'accord. Jeff?
Effectivement, tu as raison sur le fait de dire que quand tu demandes aux gens d'activer quelque chose, en gros, tu vas avoir entre 1 et 3% de ta population qui va effectivement prendre faire une action. C'est assez connu. Ouais. Donc ça veut dire que si tu changes un setting important et que tu t'attends à ce qu'il tu dois attendre qu'il le mette en place, qu'il le change pour faire quelque chose, ça veut dire que tu dois vraiment les pousser. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que tu fais? C'est tu vas coller des pop-up sans arrêt, tu vas faire un truc en gros bloquant quasiment pour dire appuie là-dessus de manière à ce que tu forces ce changement, d'accord? Je suis assez avec toi en fait dans le concept progressiste, c'est de dire si tu fais pas changer, enfin si tu fais pas bouger les choses, tu restes un peu prisonnier de tes limites, et c'est pas facile en fait de pousser des choses du type le sharing, le tagging, le timeline, etc. sur Facebook. Ben oui. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui freak out, comme le disait Yann, paniquent, sont pas contents, si jamais ils se retrouvent tagués à un endroit où ils n'étaient pas censés être, quoi.
Ouais, mais en même temps, tu te fais taguer, mais après tu peux aller l'accepter si c'est des amis à toi qui te. Moi, je crois que vraiment. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook beaucoup trop de manière c'est libertine, mais pas libertine dans le sens sexuel, mais dans le sens c'est dangereux, quoi. Facebook, il faut pas. C'est pas parce que les gens. C'est pas une question de tagging qui va poser un problème. C'est le fait que les gens mettent comme amis sur Facebook beaucoup trop de gens. Facebook, c'est pour, enfin je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pour les gens que vous connaissez, à qui vous faites confiance, vos vrais amis, votre vraie famille, et pas le mec que vous avez, enfin la nana que vous avez rencontré un soir.
Mais ça, tu le réalises, tu vois, dans après le... coup.
Bah oui,
mais après coup, et après c'est difficile. Moi, j'avais plein de gens dans mon Facebook, et tous les jours je me demande, mais comment je vais faire pour enlever cette personne de mon de
ma liste.
Ouais, mais moi ça me pose un problème moral. Voilà. je te jure que ça.
Ça te pose un problème moral de quoi?
Tous les jours, je te voyais dans ma liste d'amis, Patrick. Je dis, mais comment j'ai enlevé ce mec? Parce que voilà, j'ai pas envie
qu'il
voit.
Surtout que sa moustache.
Exactement. Et donc, du coup, ben, j'ai quitté Facebook.
Voilà. À cause de moi. D'accord. Je comprends.
Enfin, c'est un peu extrême, non? Je crois pas.
Non, enfin, j'exagère, mais voilà, c'est vrai que ça me pose un problème, quoi. Au début, tu ouais. découvres le truc, donc. T'ajoutes des gens et tout, et puis c'est au fur et à mesure que l'éducation et que tu comprends un petit peu comment son machin fonctionne, mais c'est trop tard. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était trop tard.
En grosseur, qui a un surnom un petit peu approprié, me dit, oui, mais Patrick, nous qui sommes jeunes, on la chope comment, la nana qu'on a vue dans la soirée, sans Facebook? Oui, je comprends, mais bon, si tu l'as chope et que vous vous entendez bien, c'est une bonne copine, ensuite, ou vous-même, vous restez ensemble, bah, tu la gardes sur Facebook. Si finalement c'est une nana que t'as vue une fois et que tu fais juste un smiley à chaque fois qu'elle met à jour son statut parce que elle est quand même mignonne, bah faudrait peut-être pas que tu sois pote avec elle, parce que oui, c'est des informations privées que tu partages sur Facebook, et bon, bref, moi je suis complètement pour la limitation du nombre d'amis sur Facebook, et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Ok. Enchaînons avec notre dernière histoire sur Facebook. C'est Salman Rushdie contre Facebook. Salman Rushdie, auteur des versets sataniques notamment, et d'autres ouvrages extrêmement connus. C'est un auteur d'exception, qui a vu sa page Facebook désactivée il y a quelques jours de ça. Et le problème, c'est que sa page officielle, hein, enfin sa page de fan Facebook, si je ne m'abuse, qui a été désactivée. Et le problème, c'est qu'il n'avait aucun recours. Il a essayé de les contacter par mail ou par les moyens de contact de Facebook qui existent, qui ne sont pas une personne que tu peux avoir au téléphone. Et Facebook voulait qu'il prouve qu'il était bien Salman Rushdie. Alors, il le fait, mais il voit leur passeport. Facebook voit le passeport de Salman Rushdie. Et il se trouve que Salman Rushdie s'appelle Ahmed Salman Rushdie. Donc Salman, c'est son nom, son deuxième prénom. Donc ils lui disent, ah bah non, tu peux pas avoir la page Salman Rushdie, tu peux avoir la page Ahmed Rushdie. Bah oui, Ahmed, tu n'as pas vraiment Ahmed Rushdie, c'est personne. Donc il est parti sur Twitter, il a fait tout un scandale, et au bout de 2 jours, il a réussi à avoir la page qu'il voulait, il a réussi à la faire réactiver. Alors bien sûr, Salman Rushdie, il a la possibilité d'aller sur Twitter. Quelqu'un d'autre n'a peut-être pas forcément la possibilité. C'était une histoire à la limite marrante, et il y a eu ensuite d'autres personnes qui utilisent leur deuxième prénom. Les gens ont trouvé d'autres personnes comme Paul McCartney, en fait il s'appelle James, Scott Fitzgerald, il s'appelle Francis, etc., etc. Bon, je trouve que c'est autant. Facebook a des problèmes sur les questions de vie privée. Autant là, oui, c'est un problème, mais je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit la faute de Facebook, en l'occurrence, parce qu'il faut des règles. Et il y a des exceptions qui, pour le coup, sont très problématiques, mais tu les gères au coup par coup et comme tu peux. Bon, bref. C'est l'histoire sur laquelle il n'y a pas grand chose de plus à dire, je crois.
Si. Non, aucun commentaire.
Je sais pas, moi j'ai essayé d'avoir Jeff sur Facebook, j'ai pas réussi, ça me fait chier, quoi. J'aurais dû faire la même chose.
Bon. Jean-Carole Follat dit, mon approche est différente, les réseaux sociaux c'est du domaine public, donc je ne poste que du public, rien de privé ou pas trop. À la limite, je suis presque un petit peu comme toi, Jean-Carole, et c'est l'un de mes tenants de ce que je fais sur Internet. Même si je pense que c'est privé, je ne poste que des choses dont je ne serais pas totalement embarrassé ou que ça serait pas un gros problème si ça devenait public. Et ça, c'est une règle extrêmement importante dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps et que j'encourage tout le monde à suivre. Si vous postez quelque chose, c'est pas quelque chose de problématique, même si vous pensez que c'est privé.
Ouais, mais le problème, c'est que t'as un pote après derrière qui dit « Hey, tu te rappelles de cette soirée, on était tous bourrés, tiens, j'ai retrouvé une photo. » Voilà, là, c'est pas toi qui l'as posté. Du coup, t'es...
Ouais, je pense que, objectivement, dans un monde où tout est public, où tout peut devenir public, tu réagis en conséquence. C'est-à-dire que moi je suis d'accord, tout ce que je poste c'est typiquement du public. Bon, des fois t'as un ou deux DM fail, donc là le fameux direct message Twitter ouais. que t'es censé envoyer à quelqu'un et qui in fine part à toute la communauté. Bon, il y a eu des exemples de DM fail très très connus et très très visibles. Dont un dont j'étais censé être le récipiendaire qui a créé en fait un pataquès dans mon industrie du VC.
Ah oui.
Et donc en gros t'as le mec avec qui tu discutes, d'un seul coup tu vois passer dans ton Twitter la réponse au DM que t'as envoyé, tu dis mais c'est pas vrai, il l'a posté à tout le monde.
Oui, effectivement, les direct messages sur Twitter, il vaut mieux les relire 15 fois parce que et t'assurer qu'ils ont pas parti en
et donc public. Bon, tu mets ça de côté, mais autrement, tu dois agir comme si tout contenu que tu postes pouvait être broadcasté. C'est un peu le souci, je dirais, avec Google+, qui te permet de sélectionner des cercles de gens à qui tu vas envoyer une certaine pièce de contenu. C'est que le mec qui va faire un forward, un share, etc., même si Google+ te dit bien « attention, c'est un contenu restreint, t'es pas censé le broadcaster », ils peuvent très bien le rebalancer, quoi. Et donc, tu agis... Tu te dois aujourd'hui d'agir comme si tout ce que tu faisais pouvait être public. Et donc, faut faire attention à ce que tu fais, quoi, c'est tout. Plutôt que de dire, attends, il y a une segmentation d'information que je peux essayer de préserver. Non, je pense que c'est pas le cas. Et il suffit que tu sois un peu connu pour que instantanément tout ce que tu fais se retrouve sur Twitter, Flickr, etc. Et c'est comme ça, quoi.
Et bon, au-delà de ça, c'est complètement vrai. C'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais en plus de ça, ce que beaucoup de gens qui critiquent Facebook oublient, c'est que mine de rien, c'est un outil extraordinaire, un outil de communication extraordinaire. Et ça permet de rester proche, j'utilise des guillemets, mais c'est quand même vrai, de personnes avec qui on n'aurait aucun contact, des amis, des membres de notre famille, voilà quoi. C'est un truc qui a vraiment une grande utilité au niveau de la société. Et le fait de le discréditer complètement parce que ça pose des problèmes de vie privée. Et c'est vrai, ça pose des problèmes de vie privée, mais en gros, ce que je veux dire, c'est il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et là, le bébé est a quand même une certaine valeur.
On devrait en faire un t-shirt No Watch de ta phrase.
De laquelle?
On ne doit pas jeter l'eau du bain avec le bébé.
Le bébé avec l'eau du bain sur Facebook.
C'est pas vrai que c'est correct.
Quoi?
Bon, on appelle Child Services, hein, tout de suite.
Mais c'est une vraie expression, vous la connaissez pas?
Non, mais j'ai inversé.
Mais non, mais il a dit il faut pas acheter l'eau du bain avec le bébé.
Ah oui, d'accord. Ok, bon, bref.
Il y a la police qui va sonner à ta porte, Alain.
La police québécoise. Bon, donc on arrive à la fin de notre partie news classique. Juste le temps pour moi de vous dire qu'il y a un sponsor que vous devez absolument aller voir, c'est la boutique NoWatch sur le site nowatch.net. Il y a un petit bouton dans le menu du haut qui est boutique, et si vous cliquez dessus, vous allez rentrer dans un monde merveilleux d'articles aux couleurs de vos podcasts préférés, ou simplement marqués avec les designs de NoWatch, comme la nana verte là qui crie, que vous connaissez bien. Et si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir en même temps, et je le disais dans Upload il y a quelques jours, Noël arrive, donc juste petit message supplémentaire en passant, Noël arrive, donc la boutique NoWatch est à votre disposition et vous trouverez certainement des articles fort sympathiques qui vous plairont là-bas. Donc allez y faire, allez y jeter un coup d'œil et merci à ceux qui choisissent de nous soutenir de cette manière. Alors on passe à nos zap infos ou nos news et rumeurs. Le principe, c'est que je lis certaines des infos un petit peu moins importantes qui se sont passées ces dernières semaines. Et si vous avez quelque chose à dire dessus, vous m'arrêtez en faisant un signal de votre choix et on peut en discuter deux minutes. Alors je commence avec les AMD qui a annoncé des processeurs à 16 cœurs pour serveurs. 16 cœurs, c'est quand même pas mal, mais Intel a annoncé, peut-être pas aussi vite, des processeurs à 50 cœurs qui ont 1 teraflop de puissance de calcul. Et 1 teraflop, pour donner un petit peu de recul sur le chiffre, c'est en 97 l'équivalent de 9000 Pentium 2. Donc en 14 ans ou 15 ans, 9000 Pentium 2 sont devenus un seul processeur à 50 cœurs. Bon, il n'est pas encore disponible demain non plus.
Okay. Moi, j'ai le dernier MacBook Pro avec 8 cœurs, Core, aux États-Unis, et franchement, ça booste. Hein.
Oui, bah écoute, moi j'attendrai peut-être le processeur Intel à 50 cœurs. Ça, ah, ça rien que pour le principe de dire j'ai 50 cœurs dans mon ordinateur.
Ça fait un bon pacemaker.
Enfin, ça prouve bien que la technologie, l'innovation dans la technologie te permet de continuer à appliquer la loi de Moore's Law, donc la loi de Moore. Et c'est pas, même si on pensait qu'on était arrivé à un niveau de miniaturisation tel qu'on avait atteint la limite, et ben c'est pas le cas, quoi.
Oui, tout à fait. iTunes Match a été lancé aux États-Unis et bah écoutez, ça marche bien. Donc tant mieux pour les Américains. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'iTunes Match, il y a une série d'épisodes sur le sujet. C'est en gros le service de blanchiment de MP3, comme on l'avait gentiment appelé. c'est un petit peu ça en plus. Apple fait du paiement mobile. C'est un truc intéressant que je n'avais pas vu sous cet angle, mais j'explique en deux minutes. Avec la nouvelle application Apple Store sur iPhone ou iPad, mais enfin plutôt sur iPhone, vous pouvez prendre une photo du code-barre de l'objet que vous voulez acheter dans un Apple Store, un Apple Store physique, hein, et c'est directement débité de votre compte Apple, et vous pouvez sortir du magasin sans avoir besoin de payer. Et c'est une initiative très intéressante qu'ils mettent en place dans quelques magasins au début, mais ça va sans doute s'étendre si ça fonctionne bien. J'imagine que ça sera pas dans tous les magasins non plus, hein, mais c'est en tout cas une initiative intéressante parce que ça donne une autre vision des paiements mobiles, des règlements mobiles, parce que tout le monde pense au NFC, au règlement par carte bleue, etc. Mais en fait, payer à la caisse par mobile, c'est bien sûr intéressant parce qu'il suffit de passer son mobile sur la petite machine de la caisse et on n'a pas besoin de sortir sa carte bleue, de rentrer le code, etc. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on se dit, moi-même, avec mon téléphone, je dis quel article je veux, je scanne son code et je pars avec, ça va encore plus loin. Donc, bon, pour le moment, c'est que pour certains produits chez Apple, mais cette idée est tout de même intrigante. SOPA, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est le Stop Online Piracy Act qui a fait beaucoup beaucoup de bruit aux États-Unis cette dernière semaine, on va dire. C'était une loi qui était proposée aux États-Unis qui permettait à n'importe quel fournisseur de contenu, RIAA, MPAA, etc., d'exiger le retrait d'un site web, de n'importe quel site web, des registres de DNS américains. C'est-à-dire qu'en gros, si un site web était considéré par les fournisseurs de contenu comme allant à l'encontre du copyright, ils pouvaient exiger qu'il disparaisse du web américain. Un petit peu comme les systèmes de filtres qu'on connaît la Corée du Nord, voilà, en Corée du Nord ou en Iran. Ça aurait mis ce pouvoir entre les mains des fournisseurs de contenu. Et Dieu merci, il y a eu tellement de gens qui se sont exprimés contre ce morceau de législation que finalement ils sont en train de reconsidérer et qu'a priori il ne passera pas. Certains feront peut-être le parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui en France, c'est-à-dire que certains sites peuvent être blacklistés par le gouvernement pour des questions de pédophilie notamment. Alors évidemment, la pédophilie, c'est un petit peu le, l'épouvantail qu'on sort quand on veut faire passer des législations, des lois qui sont pas forcément hyper comment dire acceptables d'un point de vue technique. Et évidemment, c'est un gros souci. Mais par contre, la différence, c'est que quand on veut faire blacklister un site en France, il y a quand même un arsenal, enfin une démarche législative à mettre en place, et c'est fait par le gouvernement. C'est pas, si je ne m'abuse, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas les gens qui possèdent les droits du contenu qui vont décider un matin en se réveillant, ce site-là, j'estime qu'il est pas bien, donc je vais directement le faire blacklister, sans passer par la case tribunal, sans passer par la case procès, etc., etc. Donc voilà, c'est une différence importante, même si évidemment les problèmes de blacklist en France sont pas la bonne manière de gérer les choses non plus. Lionel dit le DNS c'est juste un alias de l'adresse IP numérique, et tu as tout à fait raison Lionel, mais il n'empêche que ça veut dire que si tu tapes l'adresse dans ton navigateur, bah tu y as plus accès. Il faut que tu connaisses l'adresse numérique, et évidemment l'adresse numérique est beaucoup moins facile à gérer. Et il couvre aussi ce domaine en disant qu'on n'a pas le droit de répertorier les adresses numériques des sites qui ont été blacklistés. Donc c'est quand même pas aussi simple que d'utiliser l'adresse numérique ou faire un répertoire d'adresses numériques.
Et effectivement, il y a eu une grosse levée de boucliers au travers de la communauté. Donc, des gens ont essayé de préparer des templates qu'on pouvait envoyer à nos sénateurs respectifs, à nos représentants respectifs. Il y a eu des pétitions online. On a fait un gros mouvement sur Twitter parce qu'effectivement, quand on connaît la tendance on en parlait tout à l'heure, de ceux qui ont les droits sur que ce soit la vidéo, que ce soit la musique, que ce soit le contenu, ils vont forcément user et abuser de ça, et ça aurait conduit à tout et n'importe quoi, quoi.
Oui, ça aurait clairement été une loi aux conséquences dramatiques, à mon sens.
Et c'est là où tu te rends compte que, de toute façon, les politiques ne comprennent rien à rien de tous ces changements technologiques et de l'implication des lois, donc leur tendance à légiférer sur les trucs qu'ils ne comprennent pas, c'est une catastrophe, quoi.
C'est clair. Bon, on a un petit peu tapé sur l'industrie des contenus musicaux et même des vidéos. J'ai une histoire plutôt marrante où on se dit que parfois ça va un petit peu dans l'autre sens aussi. C'est une société qui s'appelle Redigi qui a pour but de revendre les morceaux usagés de iTunes ou les morceaux achetés sur iTunes et qui ont été usagés. Et la RIAA a fait un procès pour dire oui mais non mais vous êtes gentil mais ça fonctionne pas parce que les morceaux numériques d'occasion ça n'existe pas. Et ils ont gagné ils ont pas encore gagné leur procès, mais je dirais que c'est plutôt là pour ce coup-là, je suis plutôt du côté de la RIAA, c'est vraiment pas souvent que ça arrive, donc ça peut être marqué d'une pierre blanche. Le principe de Redigi, c'est que ce qu'ils disaient, c'est qu'ils mettaient sur votre ordinateur un petit logiciel qui allait analyser votre morceau et s'assurer que une fois que vous l'aviez vendu, eh ben vous ne l'aviez plus sur votre ordinateur et vous pouviez plus y accéder. Donc oui, je comprends l'allégorie du bien physique qui, une fois qu'on l'a utilisé, eh ben on peut le revendre. Et oui, c'est dégueulasse de pas pouvoir le faire dans le monde numérique parce que bon, je devrais pouvoir le faire. Ben oui, mais non. On peut pas avoir les deux côtés du truc, quoi.
Mais ça t'arrive jamais d'acheter sur un coup de cœur des jeux sur Steam et de te rendre compte que finalement tu y joueras jamais et t'as un pote qui aimerait vraiment avoir le jeu et lui refourguer pour 50%, moi j'adorerais pouvoir faire un truc comme ça.
Oui,
enfin,
oui,
là leur implémentation elle est un petit peu boiteuse, mais le fait de pouvoir revendre un contenu numérique, c'est
je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Sur Steam, ça serait possible parce qu'il y a des DRM très puissantes sur Steam.
Ouais.
Comme quoi, c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon, c'est pas possible sur si, mais en théorie, ça serait puissant. Là, les MP3 en question, évidemment, quand on les achète sur iTunes, eh ben, elles sont sans DRM. Donc, on a voulu les avoir sans DRM. On veut les, tu vois, ensuite, il faut vivre avec les conséquences de ces choix. Si tu veux acheter un CD, tu peux l'acheter et le revendre. Si t'as un fichier MP3 qui est copiable un nombre infini de fois sur ton disque dur, bon, eh ben, tu peux pas le revendre. C'est comme ça, quoi.
Ouais. Ouais. Et puis franchement, le fait qu'ils aient essayé de faire ça sans avoir une discussion un peu sérieuse avec un avocat qui s'occupe des droits en ligne, ouais. Ça me paraît un peu intéressant.
C'est clair. Et bon, là en l'occurrence, c'est comme je le disais, c'est pas souvent que je dis ça, mais sur ce procès, je suis plutôt du côté de la RIA. Ce truc de Redigi, c'est quand même bien louche, quoi. Dernière news, Sergey Brin a donné $500,000 à Wikipédia rien que pour m'emmerder. Je suis convaincu que c'était rien que pour m'emmerder. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours, je vais sur Wikipédia comme presque tous les jours et je vois l'appel annuel de notre camarade ah mon Dieu, j'oublie son nom,
Jimmy Wales
bien sûr. Qui nous dit oui, nous faisons tourner Wikipédia sans pub et c'est notre philosophie et donc nous avons besoin d'argent pour le faire tourner. Donc si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez nous en donner parce que tous les ans on a besoin de X millions de dollars pour faire tourner le site. Et moi je me dis Wikipédia, enfin comme je me l'étais dit il y a quelque temps déjà, Wikipédia je m'en sers tout le temps, c'est un site fantastique, c'est un outil merveilleux, c'est la démocratisation de la culture et enfin bref, tout le monde sait le bien qu'on pense de Wikipédia. J'ai donné, je suis allé sur le site, j'ai donné €30. Ou $30, je sais plus. Bref, l'un ou l'autre. Je crois que c'était €30. Deux jours plus tard, j'apprends que Sergey Brin donne $500,000. Et là, je me dis, c'est vraiment pour me faire passer pour un super radin. Donc, je suis très énervé contre Sergey. Voilà, je voulais le dire. Mais bon.
Oui, bref. Mais pense-y en pourcentage de fortune et comme ça. Oui, bon, ça peut te rendre misérable aussi, mais c'est pas grave.
Oui. Non, mais je sais plus qui disait ou bon, mais pour lui, $500,000, c'est rien et pour toi, donc, €30, c'est quand même quelque chose.
Ouais, bah, bon. le Gus, il pèse quoi, entre 6 et 8 milliards, un truc comme ça?
Oui. Oui, mais bon, disons que $500,000, je pense que c'est jamais rien pour personne, même si t'es très, 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 très riche. Et puis bon, il est passé par sa fondation avec sa femme, donc je suis sûr que ça lui a même coûté moins que $500,000 et que c'est dégrévé en impôts, tout ça, etc. Enfin, c'est sûr. Mais, et puis €30, c'est pas non plus une somme monstrueuse pour moi. J'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Tu vois, si j'avais voulu être hyper, genre, j'aurais pu dire « Ouais, je donne €500 parce que j'y crois trop. » Non, j'ai donné €30, ça va pas me affecter la fin de mon mois. Tu vois, je vais pas manger des pâtes parce que j'ai donné €30 à...
Non, mais je pense que c'est super que tu l'aies fait. Je pense que l'analyse de dire quel est si tu veux vraiment agir de façon rationnelle, tu regardes le pourcentage du net worth et c'est vrai que pour lui $1 million c'est que dalle, c'est rien, c'est un pouillème, c'est une running error.
C'est vrai. Bon, c'est vrai. Mais bon, bref, de toute façon, cette histoire, je la racontais simplement pour encourager les gens à...
Je dirais, le Gus, il s'est quand même acheté son 767 privé pour faire ses voyages. Juste, là où toi, tu t'achètes une bagnole, lui, il se prend un 767.
Ouais, à vrai dire, je m'achète même pas une bagnole. Je m'achète un nouveau PC quand, tu vois, une fois tous les 3 ans parce que c'est la fête. Bon, mais bref, je voulais juste dire ça pour encourager les gens. Ce que j'avais dit sur Google+, c'était, je dis pas qu'il faut donner à Wikipédia, que tous ceux qui nous écoutent, ouais, il faut que vous donniez parce que machin, mais simplement, pensez-y 2 secondes, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de donner à Wikipédia? Si vous dites oui, eh ben, allez sur Wikipédia et filez un petit peu de sous, même 5€, 10€, hein, c'est toujours ça, ça aide. Voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, incroyable. On n'a pas de satosphère de Guillaume, il est un petit peu occupé en ce moment, mais on sait qu'il est avec nous quand même dans l'esprit. Donc Guillaume, on te remercie même si tu nous as pas envoyé de satosphère. Et comme on arrive à la fin de l'émission, je vais demander à mes joyeux lurons qui m'ont accompagné pendant toute cette émission de me dire où on peut les retrouver sur Internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech. Ah, pardon. En fait, je vous laisse même pas parler, je vous interromps direct. Pour dire que le prochain épisode.
Voilà, on n'est nulle part.
Le prochain épisode, c'est le web. Enfin, en gros, le web, la conférence européenne sur l'industrie tech et les startups, c'est dans 2 semaines environ. Et on y sera, évidemment. Donc, on n'aura pas. Je pense qu'on remplacera l'épisode classique par Jeff, si tu as le temps, un épisode spécial le web, peut-être.
Ce sera avec grand plaisir.
D'accord. Bah écoute, on essaiera de faire ça. Alors, on réunira quelques personnes pour couvrir l'événement dans l'émission.
Et donc, si tu veux que j'essaie de te trouver des copains, bah oui, tu veux le faire en français, tu veux pas des intervenants anglais.
Ah bah
tu
oui,
veux pas
forcément.
J'essaie de te trouver, ouais.
Ouais, ouais. c'est forcément en français.
Ok.
Bon, on verra ce qu'on fera. Mais il y aura en tout cas une émission spéciale le web, c'est sûr. Et donc, où on vous retrouve donc?
Écoutez, ça n'a pas changé en ce qui me concerne. C'est toujours Yann Allé, YK2NALET sur Twitter. Et voilà, c'est là que je suis le plus actif. Donc voilà, vous pouvez me suivre là-bas.
Super. Jeff?
Et moi, c'est pareil. Jeff, JEFF sur Twitter.
Magnifique. Et si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez faire comme Olivier Castan qui dit « J'adore, 5 étoiles, podcast sérieux et sans prétention, tenu d'une main de maître par Mister PB, c'est moi. J'adore, continue ainsi. Romain Leclerc nous dit « Le meilleur podcast tech, 5 étoiles. Merci à toute l'équipe de No Watch et surtout à Patrick pour ce merveilleux podcast, un vrai plaisir à écouter. » Merci à vous, et donc vous pouvez nous laisser des commentaires comme sur iTunes, et si vous estimez que nous avons dit beaucoup de bêtises, vous pouvez aller nous corriger sur nowatch.net, bien sûr, sur le site de l'émission, enfin l'article de l'émission, on y a souvent des discussions fort sympathiques, et vous pouvez vous joindre à nous pour ça. La chatroom me fait des commentaires sympathiques aussi sur ma moustache. Je les apprécie tous. Et du coup, je vous fais à tous des bisous un tout petit peu piquants et moustachus. Et je vous dis donc à dans un petit peu plus de 2 semaines. Ciao, ciao, à bientôt.
Salut.
À dans 2 semaines.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.